bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Tout à l'heure.
La bande originale avec Leïla Kadobouzadi, Daniel Morin,
Bonjour.
Guillermo Gris, tout à l'heure, Tanguy Pastureau et notre invité, Mathilde Sellier. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Merci de venir nous parler de ces deux Mathilde. C'est comme ça, il y a un S, j'avais même pas remarqué
Mathilde.
Sur l'affiche. Ouais, Mathilde. dans Ni Une Ni Deux, avec François-Xavier de Maison, un film de Anne Diaferi.
Ouais.
Je prononce bien
ou... Jaffieri, oui, comme vous voulez.
Anne, d'accord. Anne Diaferi, c'est une... oui, vous êtes plusieurs, vous êtes deux, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement fort et qui fonctionne extrêmement bien. Vous jouez à merveille les deux personnages. On peut pratiquement tout dire, parce que j'ai vu la bande-annonce. Au début, je me suis dit, bon, on peut pas révéler deux, trois trucs. Non, j'ai vu la bande-annonce, il y a tout dans la bande-annonce.
Ah bon?
Oui, il y a le fait que vous êtes jumelles, il y a le fait que l'une est star, l'autre...
Donc elle est pas bien, alors.
Ne l'est pas. Si,
si.
Ça, parce que ça donne envie.
Il y a pas tout, mais c'est compliqué à pitcher.
Alors,
parce qu'il y a plusieurs angles, on peut prendre plein d'angles.
Exactement. On va prendre le point de départ.
Une actrice
connue, mais qui se sent un tout petit peu essoufflée ou en fin de carrière,
oui,
ou dans un virage.
Oui, qui est en perte de vitesse, hein, d'ailleurs.
Ah, c'est désagréable.
Voilà, croise dans un restaurant avec... elle est en train de déjeuner avec son agent.
Enfin, elle se fait...
selfiser.
Voilà. Par une fan, entre guillemets, au départ. Hein.
Qui lui ressemble.
Qui lui ressemble
étrangement.
Ouais.
Et l'agent se dit, mais c'est pas possible. Mais vous êtes sûre tellement vous ressemblez.
Ouais.
Et c'est la réalité. Elle, non seulement, elle est sa sœur jumelle, mais en plus elle veut rentrer en contact avec elle, poussée par sa fille pour lui révéler cette gémellité, lui dire mais on est voilà, on a été chacune
séparée à la naissance,
et on a grandi
séparément. Elle lui laisse sa carte du salon, et évidemment
salon
Julie, qui est absolument odieuse, chez la méprise chez Laurette.
D'accord. Ça c'est le nom du salon de coiffure, et l'une est odieuse, l'autre est solaire, pour reprendre l'expression de Nicolas Briançon qui joue le rôle d'un metteur en scène, puisqu'il y a une espèce de mise en abîme aussi, où on se retrouve dans un film, pris dans un film, une comédie dit que la star n'a pas vraiment envie de faire, que la coiffeuse qu'elle va remplacer, qui va la remplacer au pied levé parce qu'elle a subi une chirurgie esthétique totalement ratée, va jouer son rôle, et elle sera solaire et va réussir à embarquer toute l'équipe de son côté, alors que la star qui est méprisante avec la technique, méprisante avec le personnel, ne va pas comprendre ou va avoir du mal à réaliser que l'autre se fait accepter et réussit là où elle échoue. Voilà.
Ça, c'est fouillé, le pitch, Nagui.
Mais c'est un pitch
super.
Fouillé.
Fouillé. Mais je suis admiratif.
J'ai pris vraiment du plaisir à.
Oui,
ça paraît
compliqué comme ça, mais en fait, quand on voit le film, non.
Non,
on
non.
Prend très bien. Non, comme elle remplace l'une, l'autre, elle devient rousse comme on pourrait se perdre, mais je crois qu'on les repère bien voilà. Toutes les deux.
Oui, puis ça se voit même, et là, c'est votre talent, c'est-à-dire que.
Ah, oh, bah ça, j'en sais rien.
Quand vous incarnez Julie Verhoeven, cette grande star, ou Laurette, forcément, c'est vous, donc c'est la même comédienne. Mais j'ai quand même la sensation que c'est comme si c'était, vous étiez très très différents.
Je suis d'accord.
Il y a un truc
Leïla.
Dans le regard, il y a un truc dans le
c'est pas l'énergie. On a travaillé ça, pas que la coiffure.
La gestuelle aussi, tout.
C'est pas, c'est ça. Ce qui est important, c'est que c'est pas que les accessoires, c'est pas que les effets spéciaux. C'est que dans le regard, dans la manière de sourire, la manière de parler, c'est pas les deux personnes.
Ouais.
Et c'est pas surjoué.
Oui, parce
c'est
que
Laurette
devient rousse à un moment donné comme Julie, et j'ai essayé de les faire aussi différentes quand elle est rousse. Parce que quand elle est blonde, c'est plus facile. Mais à partir du moment où elle est rousse comme l'autre, on s'y perd un peu. Ouais. Moi, je m'y perdais un peu.
Hein. Mais sincèrement, vous marquez des points de comédienne en jouant ce rôle-là. Mais vraiment, parce
ça
que
m'a
c'est...
amusé de faire ça.
Et j'imagine. On va en reparler dans quelques instants de cette comédie qui sort ce mercredi 29 mai, juste avant le pont de l'Ascension. C'est cool pour aller au cinéma. Mmh. Mais d'abord, des questions concernant Mathilde Sellier. Quand elle était petite, elle ne disait pas comme métier plus tard, je voudrais faire comédienne, mais comme métier plus tard, je voudrais faire
coiffeuse.
Non.
Chanteuse.
Moi, c'est moi qui devine.
Ouais, non, surtout pas, non, c'est eux.
Ah, c'est eux. Moi, je sais.
Non, bah oui, je sais.
En même temps, vous êtes bien placé.
C'est pour faire gagner quelqu'un.
Non.
Un autre métier ?
Non. C'était une
échelle. Je vais être
absurde,
sur scène.
Heureuse.
Je veux pas faire comédienne comme métier, je veux faire.
Religieuse.
Cornichon.
Et alors, ce qui est drôle, c'est que
absurde. Il a dit absurde.
C'est absurde, mais c'est une expression.
Cornichon, ça marche.
C'est une expression qui se dit même dans le milieu maintenant.
Oui.
On veut faire
sens.
Pas comédien, non. Pas chanteur. Non, bah arrête. Mathilde.
Macheuse.
Non, arrête.
Son Ciao Pantin,
non. Non, mais c'est, ouais, c'est l'idée en tout cas.
C'est un dramatique, ma Sarah Bernard.
Non.
C'est une salle.
Arrête.
Ah, je veux l'Olympia.
L'Olympia.
Je les aide.
Non.
Mais ils gagnent quoi?
J'aime bien. Rien. Ils gagnent à être ridicule. À être ridicule quand ils. Je veux pas être comédienne, je veux être Olympia. C'est génial.
Je veux faire l'Olympia, ouais. J'avais dit ça.
Pourquoi? Parce que vous avez vu des reportages.
Mais parce que non, pour moi, l'Olympia, c'était au-delà d'une salle, c'était un métier.
Ouais.
Mais en fait, c'est pas complètement absurde de dire ça, parce que.
Maintenant, un chanteur dit, je vais faire l'Olympia.
Voilà, quel artiste, bon, chanteur et humoriste, bien sûr, parce que pas acteur. Mais on entend souvent, je voudrais faire l'Olympia. Ouais. C'est comme une, je sais pas, c'est quoi, c'est un comme graal. Un métier, en fait. C'est un graal, exactement.
Un seul en scène, ça vous est déjà, ça
oh
vous
là
vous l'a
là,
proposé
il
ou pas?
Me demande tout le temps, parce que.
Il, c'est qui?
Bah, plein de gens, des, même Muriel Robin, elle me dit, je peux te l'écrire, les, voilà, mais non. Bah non, parce que oui, je fais des imitations, des trucs comme ça. Et j'en fais un peu.
Dans le
là,
film, dans le film
au début,
grave, Johnny,
quand fait Vardan, mais oui, je fais des imitations, j'aime beaucoup les imitations et tout. J'adore le musical, mais seul en scène, faut vraiment
c'est-à-dire que le danger,
avoir quelque chose à dire.
Le danger, c'est de se dire ce qui fait rire des potes à table comme ça, les fins de soirée, est-ce que c'est la même chose sur scène avec, avec un micro,
bah,
et un spectacle.
Mon mais pote Antoine Duléry a fini par le faire, parce que c'est un génie, le mec le plus drôle que je connaisse au monde, Duléry, donc Gatineau dans Camping. Et voilà, il a fini par le faire. Mais...
Et c'est formidable.
Et c'est formidable. Ah. C'est un garçon. Je sais pas, je me dis...
Bah, c'est un garçon. Pourquoi
des... Oui, mais bon...
Ça veut dire quoi, c'est un garçon?
Bon, c'est le matin, il y a des trucs... Non, mais je veux dire que c'est pas que c'est un garçon, c'est idiot. C'est pas ça, c'est... Il y en a tellement, en fait.
Ouais, y'en a beaucoup trop, moi je choisis une.
Il y en a qui ont rien à dire.
J'en peux plus, il y en a 10 par semaine. Des stand-up, des.
Mais qui font l'Olympia, n'a pas tant que ça.
Non. Non, mais enfin bon.
Ok, on oublie. Voilà. Mathilde Seignier panique souvent quand elle reçoit. Quand elle reçoit
un César. Un SMS
Non.
Un César, ça m'étonnerait. J'en ai pas reçu beaucoup.
Un scénario.
Tous ces Césars.
Tous ces Césars.
Qu'elle reçoit une lettre de fan, qu'elle reçoit un témoignage.
Ah bah alors,
une lettre recommandée.
Pas, moi.
Recommandée.
Et Nagui, je ne sais même pas.
Une lettre recommandée. Tu n'aimes pas les lettres recommandées.
Ah bah alors, c'est pas très bon signe.
Bah personne.
Pas très intéressant comme information.
Non, le côté paniqué à recevoir une lettre recommandée.
Paniqué, non, j'aime pas tellement les lettres recommandées. Je me dis que c'est toujours une mauvaise nouvelle. Oui. Bon, enfin bon, je vis quand
pas
même.
Pas toujours.
Moi, généralement, t'envoies pas une carte postale par recommandée.
Bah souvent.
Mais non,
c'est...
mais tu peux très bien.
Ça serait pas drôle, ça peut
être un conseil. Ça m'agace, la lettre recommandée.
Écoute, pour avoir. Comment je vais raconter ça sans trop.
Ça.
Non, mais pour avoir poursuivi une radio au Prud'homme, j'ai gagné les Prud'hommes. Et donc, la décision du palais de justice est reçue par la lettre recommandée. D'accord. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'en effet, la factrice même, qui me remet la lettre en me disant. Désolé. Parce que dessus, il y avait marqué tribunal de Paris, ainsi de suite.
Mais non, mais c'est souvent vrai qu'une lettre recommandée, c'est pas toujours très bon.
Et puis, t'en as reçu des lettres du tribunal.
Oh là là, c'est un voyou.
Avec quel grand acteur Mathilde Seignier a-t-elle un projet de théâtre?
Jean Gabin.
Et peut-être qu'elle le sait même pas, elle.
Non.
Weber?
Non.
Arditi?
Non.
Il faut donner un indice.
Un grand.
Depardieu.
On en a beaucoup parlé là.
Ah bah oui, il est.
Ah bah comment.
Delon.
Mais non.
Oui.
Ah ouais.
Exactement.
Mais c'est pas un grand acteur de théâtre.
Mais je suis pas au courant.
Vous n'êtes pas au courant? Il a déclaré donc, là, il y a une semaine, je finirai ma carrière au théâtre, ce sera le crépuscule d'un fauve, une pièce écrite pour moi par Jeanne Fontaine, j'aimerais que Mathilde Seignier soit ma partenaire.
Oui, il a dit une autre actrice aussi.
Astrid Veillon.
Voilà. Mais j'en sais rien, parce que c'était un projet qu'on avait eu il y a des années, puis ça s'est pas fait, et là j'en sors du théâtre, j'ai fait une tournée avec Richard Berry, et là j'en... Ouais. C'est pas avant 5 ans, faut qu'il tienne jusqu'à 5 ans.
Pourquoi? C'est fatigant.
Parce que...
L'information du jour, il faut qu'il tienne 5 ans.
Ou alors je fais 10 représentations, je peux plus, non, c'est trop dur le théâtre.
C'est une astreinte, c'est une gymnastique quotidienne.
C'est effrayant. J'ai l'impression qu'il y a plein d'acteurs qui adorent ça, qui vivent pour ça, qui trouvent ça formidable. Moi, personnellement, j'y vais tous les 5 ans parce que je trouve que c'est une rigueur, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis on.
Est-ce que c'est le même métier que d'être au cinéma ?
Mais pas du tout. On répète tous les soirs la même chose. Donc les acteurs un peu intenses et peut-être que c'est vrai d'ailleurs ce qu'ils ressentent. Ils disent je trouve des trucs tous les jours. Moi je trouve rien du tout. J'en peux plus de dire les mêmes mots. Et là, je trouve ça effrayant quoi.
On tente pas des trucs différents, on
tente rien.
On joue, on s'amuse.
Bon, il y a des soirs on est dedans, des soirs on est moins dedans, des soirs on a envie, des soirs on n'a pas envie.
Des soirs le public est bon, des soirs le public est pas bon.
Oui, voilà, mais en tournée c'est amusant parce que les régions sont différentes, donc c'est des publics différents, ça varie. Mais quand on est à Paris tous les soirs et tout, bon là la pièce avec Richard Berry, la nouvelle, donc elle a eu un succès fou, donc c'est vrai quand les salles sont pleines c'est sympa. Pour l'ego, mais moi, il y avait des soirs, je me disais oh là là, pourvu que je sais pas, un problème dans le théâtre, l'électricité.
Ah oui, donc non, pas de pièce de théâtre, d'accord.
Voilà, je suis franche, je suis
honnête. Ouais, toujours comme
mais
toujours.
10 avec Delon, ce serait pas mal.
Delon, j'adorerais, ouais. J'adore Alain, et c'est vrai que la pièce est super. Mais bon, il a pas dit que moi, hein, il a dit à Sylvie Veillon,
c'est jalouse. C'est surtout ça.
Il a même commencé par Sylvie Veillon, il l'a dit en deux.
Ça sera Astrid Veillon,
c'est celle-là. Celui-là.
En 2009, Mathilde Seigné a été la marraine d'une campagne anti-hypophagie. C'est quoi ?
Manger des hippopotames.
Non. Anti-hypophagie.
Hypophagie, le fait de manger moins.
Non. Mais non, l'hypophagie.
Comment ? Ah, le cheval ?
Ouais.
Contre le cheval ?
Contre, pour ne pas manger le cheval.
Ah oui.
Pourtant, c'est tellement bon.
Non, c'était Bardot qui m'avait demandé.
Mais pas.
De la remplacer parce que je sais plus quoi. Et j'étais allée à l'Assemblée nationale. J'étais allée. D'ailleurs, j'ai vu ce documentaire parce que c'est les abattoirs, mais ça, c'est pour tous les bestiaux pareil.
Pardon, ce que j'allais dire, oui. Pourquoi les veaux ? Pourquoi les.
Ouais, le cheval, moi, c'est vaches. Parce que ça me fait quelque chose.
Non mais d'accord, mais ils ont tous les animaux ont des émotions et une sensibilité, donc pourquoi plus eux que les autres ?
Je crois qu'à l'époque il y avait un documentaire, c'est des chevaux qui venaient de Pologne conditions absolument atroces.
Non mais c'est parce qu'on avait retrouvé dans la viande, il y a le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes. Raviolis, non ?
Lasagnes.
Mais donc vous n'êtes pas végétarienne pour autant ?
Ah pas du tout. J'aime beaucoup la viande. Mais le cheval, je peux pas. C'est un animal que j'adore. Je monte dessus. Je n'ai pas envie de bouffer du cheval.
Monter sur une vache, vous me sauverez la vie.
Je monte à vache.
Et même en ayant fait l'hirondelle, ça vous a pas sensibilisé sur les conditions animales ?
Bah, l'hirondelle, c'est des chèvres et puis
ça reste des animaux.
On fait du fromage.
L'hirondelle est une chèvre.
Est un film avec une.
Non, j'aime bien manger de la très bonne viande de temps en temps. Je veux pas être malhonnête.
Un carpaccio de poulain.
Faut pas non plus être excessif. Hein. On a toujours mangé de la viande.
Si je vous dis que Mathilde Seigné a tout perdu, je fais allusion à quoi ? Elle a tout perdu dans quoi ? À quel niveau ?
Au poker.
Casino ?
Non. L'argent ?
Non. Tout perdu.
Ouais. Je sais même pas, Nagui.
C'est quoi, des souvenirs, un texte ?
Une partie du corps ?
Non.
Son sac à main ?
Non.
Je sais pas.
Ses papiers.
Je vais te dire.
Des photos ?
C'est un rapport avec des papiers.
Son identité ?
Non.
Pas loin. Son état civil.
C'est pas loin.
Son permis ?
Les points.
Exactement.
Des points, d'accord.
Vous avez perdu tous vos points.
Mettez-vous devant le micro, Mathilde.
Non, mais elle cherche le permis.
Non, c'est parce qu'il y a mon téléphone. J'ai tout perdu, mes points.
Vous avez perdu vos 12 points ?
Dans mon permis.
Ah oui ?
Ouais.
Mais après, on passe des stages pour le récupérer, ces points, non ?
Ah, mais j'ai récupéré le permis.
Ah, bah très bien.
Mais je ne conduis plus.
Par prudence, pour les autres ?
Exactement, Nelly.
Il y a un peu de ça, c'est ça ?
Ouais, non, tout à fait, absolument. Non, je conduis plus parce que j'ai quand même eu peur et que j'ai plus envie.
C'est comme le théâtre à chaque fois, c'est la même chose.
Non, et puis, oui, voilà.
Tu démarres.
Non, et puis, voilà.
C'est même panneau.
Parmi toutes les phobies, et ne dites rien, Mathilde, saignez s'il vous plaît, parmi toutes ces phobies, elle ne supporte pas les insectes, l'avion, l'odeur de l'eau de Javel et un autre truc, un objet.
Ah, je sais.
Les clowns ?
Non.
Un objet.
Un objet, un clown, ça peut être un objet décoratif.
Un objet.
Ouais, je sais, je veux pas savoir.
Un objet.
Le César.
Non.
C'est dans une pièce de la maison. Mais
ça peut être dans un lieu. Ouais, mais.
Une statue.
Ça peut être dans un lieu.
Oui.
Des statuaires, des bustes.
Mais il y a des gens
pour
qui.
Pour vous aider, ça se fait plus beaucoup.
Il y a des gens qui peuvent l'avoir à la maison et même sur eux.
Empaillé ? Non.
Non.
Pas sur eux. Alors, c'est pas ça alors auquel je pense.
D'accord. Tu peux l'avoir à la maison ou. Je peux le porter sur toi aussi.
Giscard ?
Non.
Une peau de bête ?
Ah, ça peut être un bijou d'un Guy.
Un chapelet.
Ah, voilà.
Oui, on sait pas loin.
Un camé.
Tu as dit quoi ?
Un chapelet.
Oui, c'est pas loin.
Une croix, exactement.
Crucifix.
Crucifix.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le fait de voir Jésus sur la croix qui oui. vous rend malade,
ouais.
c'est ça ?
Ouais. Ouais, c'est très curieux. Une croix en bois sans Jésus, ça va.
Ça va.
Ah, d'accord. C'est, ouais. Donc, c'est pas la religion.
Non.
C'est le fait de voir un homme mort.
Quand j'étais petite, j'avais un parrain qui avait un château et il y avait des crucifix au-dessus du lit.
Ouais, souvent, oui.
Oui. Et je pouvais pas dormir.
Donc vous le décrochiez avant
oui,
de dormir.
Oui, et je le mettais dans un gant de toilette dans la salle de bain.
Au frais.
Dans un non, curieux, une sorte de un linceul.
Non, ça m'angoisse de dormir avec un crucifix et je pouvais pas non plus manger devant un crucifix, dans une pièce où il y a un crucifix, j'ai pas faim.
Et ça va si on vous jette de l'ail ou de l'eau bénite
ouais, ça va. Et non, mais ça me coupe l'appétit, c'est, je sais pas pourquoi.
Et si vous prenez un garçon dans vos bras et d'un coup, il a
il
un crucifix... Non, mais autour du cou, il y en a qui ont ça.
Avec
bijou.
Jésus dessus
ouais.
Ah, je pars. Je lui demande de l'enlever. Ah non, j'aime pas. Je sais pas pourquoi.
D'accord. Ok. Bah non, mais ça reste.
Ça m'angoisse de. Ouais.
On peut comprendre. On peut
tout
le comprendre.
Ça, voilà.
Alors parlons de ce film qui vous a pas angoissé, ni une ni deux. Anne Jaffery. Alors pour ceux qui ne voient pas qui est Anne, elle avait déjà réalisé un film avec Patrick Bruel et Isabelle Carré.
Ange et Gabriel.
Ange et Gabriel. Et puis surtout.
Fais pas ci, fais pas ça.
La célèbre série Fais pas ci, fais pas ça.
Ouais, elle a créé ça, ouais.
Exactement, créé, réalisé.
Elle a une jolie écriture d'ailleurs, Anne Jaffery, c'est bien écrit.
Et alors tout est parti, cette histoire de deux sœurs jumelles qui ne savent pas que... Enfin, l'une des deux ne sait pas que l'autre existe et l'autre va faire une enquête, une approche en tout cas pour révéler la vérité à sa sœur jumelle. C'est une histoire vraie. Elle a découvert ça avec deux jeunes filles.
Je crois qu'elle avait vu à la télé, c'était des Asiatiques qui avaient été séparées
une à Paris, une à Lyon, c'est ça ?
Ouais. Ouais. De côté maternel et paternel, exactement comme dans l'histoire. La seule chose qu'elle a fictionnée, elle a bien fait parce que les gens aiment beaucoup, parce que ça surfe sur 10%, l'autre série, c'est le métier.
Ouais. La mise en fait,
les gens, gens du public, je me rends compte, dans les avant-premières en province, adorent Laurette, bien sûr, mais ils adorent Julie parce que tout ce métier avec les maquilleuses, la malveillance... Oui, ça parle du métier, donc c'est amusant.
La femme qui vieillit aussi.
Oui, les actrices. Bah oui, parce que nous, on a quand même un gros souci. Mm-hmm. C'est, enfin, bon, moi, j'y pense pas trop, mais de vieillir quand on est actrice, tandis que les acteurs vieillissent bien.
Il y a la vanne qui est dite à un moment donné. Mais si cette actrice est entièrement refaite et qui est massacrée, et aucun nom n'est jamais
aucun
donné.
Nom qui sort. Ah, ça, c'est très drôle. Oui, comme cette actrice là.
Voilà, ça c'est très très drôle.
Il y a aucun nom. Enfin, on sait.
L'idée de faire appel à la chirurgie esthétique ne vient pas de ce qu'on pourrait imaginer, son agent ou son entourage, mais c'est elle qui décide de le faire. Au contraire, autour d'elle, on dit surtout, faut pas se tout.
Moi, je pense que les actrices qui ont recours à la chirurgie esthétique, c'est des choses qui sont très personnelles, ou les actrices, les femmes d'ailleurs, d'une manière générale, hein, y a pas que des. C'est une décision très personnelle et c'est une angoisse de la glace en pensant qu'elles seront mieux après.
Ce qui est rarement le cas.
Voilà. Moi, je pense
pour
que
pas dire
c'est...
jamais. Ouais.
D'ailleurs, dans le film, votre personnage est censé avoir 45 ans.
Ouais.
Et elle se retrouve totalement gonflée, défigurée.
Non, mais c'est marrant.
Ouais, j'ai un peu plus. Moi.
Mais dans la mise en abîme, c'est drôle de
ouais,
se dire.
Enfin, là, pour moi, elle a une cinquantaine. De...
Oui, c'est ça. Non, mais dans le film, elle dit 45 ans. Donc, je me suis dit, ça aussi, il y a une forme de discours aussi sur l'âge de la femme qui veut pas non plus donner son âge.
Non, mais faut reconnaître, c'est pas. Enfin, c'est peut-être macho ou voilà, mais il faut reconnaître que quand même les femmes ont plus de mal dans ce métier.
Il y a moins de rôles.
Vous, journalistes aussi et tout.
Bien sûr.
On dit d'un homme qui vieillit bien, qui se burine, d'un acteur, il est beau, il est encore plus beau en vieillissant. Ouais. Même on voit Delon à Cannes, il est vachement beau. Enfin, je veux dire, les femmes.
Ouais, c'est plus dur.
C'est plus dur.
Ah non, bien sûr. Moi, j'ai vu Andy McDowell à Cannes, justement, elle était sublime. Et elle a, je crois, une soixantaine d'années.
Ouais,
et...
mais c'est ton avis particulier, mais par rapport
aux
pros.
Non. Andy McDowell, attends, tu rigoles, tu la vois, tu peux pas dire.
Mais 76.
Ouais, non, tu dis
moi, je pense sincèrement qu'on peut faire des choses très subtiles sur son visage, que ce soit même des massages, pas forcément du botox ou de l'acide hyaluronique. Je pense qu'il faut s'entretenir quand même. Sinon, c'est compliqué quand même à un moment donné.
Pardon, on en reparlera cette semaine avec Claude Lelouch, mais Anouk Aimée est sublime.
Ah non, mais je dis pas
sublime.
Le contraire. Oui. Je dis simplement que dans l'industrie, de... dans l'industrie du cinéma, les femmes le disent régulièrement. C'est-à-dire que soit t'es la jeune première et ça va encore, soit ensuite t'as un gouffre et puis t'es la grand-mère.
Là, c'est autre chose. C'est plus un problème de chirurgie esthétique, c'est un problème d'écriture et de rôle. Est-ce qu'il y a des rôles?
Mais pourquoi tu te fais refaire la gueule à un moment aussi?
Parce que tu doutes.
Et puis parce que tu vois aussi des jeunes femmes qui ont plein de rôles autour de toi, j'imagine, et qui sont un peu dans. Et toi, t'es dans le creux de la vague. C'est l'histoire du personnage dans le film. C'est-à-dire qu'elle se dit, on me désire plus, on n'a plus envie de moi, il faut que je me donne un coup de frais.
Oui, il y a une Mélanie qui lui prend tous les rôles, visiblement. Oui. Voilà. Oui, enfin, moi, je ne vois pas tellement ça comme ça, parce que, d'abord, moi, je ne me suis jamais vendue sur mon physique, donc ça m'est égal, après, c'est différent. J'imagine que pour les très belles jeunes, ça doit être dur de vieillir. Moi, je n'ai pas du tout ce problème-là. Après, il faut faire attention, il faut s'entretenir. Mais globalement, je trouve que ne pas trop toucher à son visage, ça fait qu'on a des emplois aussi. Que on peut jouer Lorette, Julie, mais je peux jouer aussi une agricultrice, je peux jouer une boulangère, je peux jouer toutes sortes de choses. Parce que les gens, à partir du moment où on a une bouche comme Julie en canard, enfin moi je dis, bon, ça, les saucisses.
Vous pensez à quelle actrice?
C'est même pas une bouche en canard.
On n'a plus d'emploi, on n'est pas filmable. Voilà. Donc vaut mieux avoir des cernes, vaut mieux avoir des marques. Mm-hmm. Vous savez, Signoret, elle était marquée, Schneider était aussi, et elles étaient sublimes. Annie Girardot aussi, et c'était des grandes.
Et d'ailleurs,
actrices.
Sans ce visage-là, dans Le Chat, par exemple, ça n'aurait pas le même
poids.
C'est-à-dire
que Signoret, si elle avait fait du Botox, c'était pas vraiment l'époque, mais dans Le Chat, j'aurais quand même.
Le Chat avec Signoret siliconé, avec des gros seins, c'était bizarre.
Avec Gabin, ça l'aurait
c'était
pas
hyper
fait.
Bizarre.
Non, mais ce que je ne comprends pas, mais elles font ce qu'elles veulent, c'est qu'en fin de compte, elles perdent des rôles.
Oui.
Donc pour en revenir à Ni Une Ni Deux, vous êtes double, les deux sont totalement opposés, c'est vraiment là
je
on
sais
est
pas,
au,
je me rends pas compte
aux deux pôles.
J'ai eu du mal à me voir. Hein.
L'une et Leïla a raison, Albert aussi quand il souligne que même sans artifice, même sans accessoires, on voit très bien qui est qui parce que le sourire n'est pas le même, parce que la manière de parler n'est pas le même, le regard.
Il y en a une qui est plus ronde que l'autre aussi, qui a l'air un peu plus ronde parce qu'en
pas,
fait,
il y en a une qui
est
méprisante. Présente dans sa tenue de tête, dans son regard, dans sa manière de parler, et l'autre qui est solaire.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est dans votre jeu. Et je ne sais pas où vous êtes allé chercher ça, si ce n'est encore une fois dans votre talent d'actrice, mais c'est super bien trouvé.
Bah, c'est très gentil, Nagui. Je ne me rends pas compte. Il y en a une qui est un peu plus ronde que l'autre, mais ça, c'est un truc de vêtements. J'ai aussi été aidée par des maquilleurs, des coiffeurs. Il y a eu un travail assez.
Ouais, mais c'est
global.
Réussi. Et alors, justement, la mise en abîme dans le cinéma, l'actrice, celle qui ne peut pas jouer, qui engage sa propre sœur, sans le savoir dans un premier temps que c'est
par
sa sœur.
Par intérêt, au départ.
Voilà, par intérêt, en disant, écoute, tu vas me remplacer, mais juste le temps que ça dégonfle.
Incognito,
et
après, bien sûr.
Voilà. Et attention,
dans le
comportement qu'elle a avec les autres.
Sur le plateau,
et
voilà.
Et ça, c'est drôle.
On
n'embrasse
pas.
Et elle ne peut pas se retenir, l'autre, parce qu'elle est comme ça. Elle claque la bise à tout le monde, elle devient sympa. Et elle surprend
mais
même le
metteur en scène. Anne-Jeffery écrit d'ailleurs, dans le film, entre autres, sur ce métier, que quand on est odieux, on est respecté. Elle le dit, Julie.
Oui, pour avoir la paix. On sent que c'est une stratégie.
Elle le conseille
Julie,
à sa sœur, d'ailleurs.
C'est Julie, ouais.
Mais c'est très très juste.
C'est vrai?
Oui. C'est-à-dire, en fait, quand on est...
Si on est trop proche...
Non, quand on est très odieux, très distant, ou même sans être très odieux, mais j'ai vu des actrices très distantes, on les dérange pas, et c'est vrai qu'on leur dit tout de suite qu'elles ont fini. Ouais. Quand on est trop gentil, on se dit, oh, bon, elle est sympa, puis on s'en fout un peu. Après, ils disent derrière.
Et on tape dans l'épaule, et on tape sur l'épaule.
Et après, ils tapent derrière quand même l'actrice odieuse. Hein. Ils disent, elle est odieuse, mais...
Mais le jour où l'odieuse est un peu sympa, on se dit elle est super.
Voilà, exactement.
Mais alors quand la super sympa devient un peu chiante pour une
on
raison,
on dit elle est effrayante. Je suis tout à fait d'accord.
Elle a pris le boulard.
Oui, elle a pris le boulard. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est.
Et vous
c'est
êtes
très
comment
subtil.
Sur un plateau, vous vous dites
moi, je suis très comme Lorette.
Ouais.
Je suis très sympa.
Mais là, vous encouragez tout le monde à être odieux finalement dans les conseils que vous donnez.
Un peu.
Bah oui. Enfin moi, c'est pas ma nature, mais je conseille pas tout le monde. Non, parce que c'est nul d'être odieux. Il faut jamais être odieux, mais. Globalement, c'est vrai que quand on est un peu dur, on vous dérange pas toutes les deux secondes. Quand on est trop sympa, les gens rentrent, il y a un abus, mais c'est comme dans la vie.
Ouais.
Pour jouer les deux rôles, et ce qui est extrêmement bien fait encore une fois, avec des trucages, on imagine, et on va pas comme les tours de magie, ça ne nous regarde pas de savoir quels sont les trucages, mais...
Ah bah il y en a, hein, la double passe.
Voilà, mais pour pouvoir jouer et se répondre à soi-même, ça doit être bizarre. Ouais.
Ah, c'est invraisemblable.
Dialoguer avec soi, c'est psychanalyse.
Parce qu'à un moment donné, quand je dois...
Vous mettez dans la bouche quand vous parlez, parce qu'on comprend rien du tout.
Quand je dois me réunir avec moi-même, enfin me jouer avec moi-même, notamment les scènes toutes les deux à table, ça m'a frappé cette scène à table, parce qu'on est très proches et l'une mange comme une folle, l'autre mange pas, une actrice ça mange pas.
Une actrice ça mange pas, la phrase est dite.
Elle lui dit, vous faites 38, vous faites un peu plus, elle est absolument odieuse. Ça, c'est très bizarre de... Oui, parce que tout d'un coup, je suis obligée de faire l'une, après je fais l'autre, et en fin de compte, je m'entends. C'est très schizophrène, quoi. Mais c'est amusant, c'est amusant. Je ne me suis pas posé trop de questions, hein, parce que sinon... C'est après, en voyant le film, que ça m'a plus déstabilisée.
Ah, carrément, oui.
Quand j'ai vu le résultat.
Ça vous a troublé. Ouais, et puis, il y a des histoires d'amour aussi, il y a toute une histoire familiale, il y a le rapport avec l'agent, entre guillemets, le rapport avec sa propre mère aussi, jouée par Marianne Chazelle, je ne l'ai pas cité, pardon. Il faudrait d'ailleurs que je cite également Ariel Mallet, Nicolas Briançon, Vincent Regan, Axel Dodier, et Marie-Julie Baupe en maquilleuse, qui est absolument déjà une comédienne formidable. Mais elle est juste parfaite également dans cette affiche. Ni une ni deux. Et ce qui est bien aussi avec le titre ni une ni deux, c'est qu'il y a l'expression avec ce côté allez, on y va, quoi, on se jette à l'eau, ni une ni deux.
Ça aurait pu être ni l'une ni l'autre, ça aurait pu être... Mais ni une ni deux, en fait, ça, le titre a été... on a réfléchi. Il a pas été forcément... d'emblée, et puis on a proposé d'autres titres. Avec
alors vous avez dit je suis ni l'une ni l'autre.
Moi je suis ni l'une ni l'autre.
Plus proche de Laurette, non?
Non. Non. Je suis un peu des deux. Un peu des deux. La fragilité de Julie quand même. Ni l'une ni l'autre. Oui, c'est mon fils de 12 ans qui m'a dit, après avoir vu le film, il m'a dit, maman, t'es ni l'une ni l'autre, mais t'es toi.
Ah, c'est joli.
C'était mignon.
Il voulait son argent de poche.
Vous savez, Nagui, c'est deux rôles, mais c'est comme un rôle.
Est-ce qu'il fait deux fois plus de travail?
Oui.
Quand même.
Payé double?
Non. J'allais le dire. Et non. Et non.
Passer cette chanson, parce que c'est évidemment une main que vous me tendez pour venir un jour chanter dans N'oubliez pas les paroles.
Je sais, hein, mais beaucoup demandé.
Tu verras.
Et puis il y a Sublime, ce duo Alain Chamfort avec Annabelle Moulin.
Quelque part, n'importe où, guidé par le hasard.
Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main. Par les rues, nous irons.
Parce que c'est joli cette chanson de Mouloudji, cette reprise. Mouloudji, bien sûr.
C'est une chanson d'amour, mais c'est vrai qu'elle colle bien aussi aux deux sœurs, parce que c'est aussi une histoire d'amour entre.
Il y a aussi la chanson de. Elle a une jolie bande-son de Juliette Armanet, Star Triste. Voilà.
Triste star. On va parler musique dans quelques instants, d'abord Maréchal Ganache, ce film va être un succès.
Ah Nagui, quoi, vous m'avez appelé Maréchal Ganache.
J'aurais pas dû.
Bah, je vous ai bien eu, vous avez vu que du feu. C'est pas le maréchal Ganache qui vous parle, c'est son frère jumeau. Ah oui, vrai jumeau, homozygote, uniovulaire. Uniovulaire, homozygote. Alors je m'explique. Conséquence de la terrible mutilation du joufflu que lui infligèrent les Viettes en 54 à Gangbang Phok, mon frère n'auriez pas respecté son état. Mon Pierre vient de subir une énième opération qui a mal tourné, un peu comme celle de Julie dans le film. Du coup, il ne peut plus du tout rester assis. Elle donc fait appel à moi pour le remplacer dans la bande originale. Comme ça, il peut toucher son cachet, si ridicule soit-il. Mais revenons à Ni Une Ni Deux. Ça va faire ni une ni deux, carton garanti. Scénario très ingénieux, réalisation impeccable, montage formidable, casting vraiment épatant, vous l'avez cité Nagui, et surtout la formidable interprétation de Mathilde Seigné, dont le jeu, bien au-delà de la performance qui l'a conduit à se dédoubler, dont le jeu, disais-je, confère à ces deux personnages à l'insolite ressemblance, Julie et Laurette, la tresse secrète d'une étrangeté intemporelle, étrangeté qui pourrait bien se dissimuler au fond de nous, nous qui nous croyons uniques, alors que dans les sombres profondeurs de notre psyché, il y a du monde.
Wow.
J'espère. J'espère
il est beaucoup plus intelligent que son frère.
Oui, et j'espère que l'année prochaine...
Et moi, qu'Albert Algo, hein,
je remplacerai Trapenard à Cannes, je coûterai moins cher à la station,
en stupéfiant. si j'ai été ému, par ni une ni deux, c'est aussi parce que cette histoire me reporte quelques décennies en arrière.
Ah bon?
C'était en août 1944. Avec mon frère, Ganache, nous avions quitté Vichy déguisé en femme à barbe dans la roulotte d'un cirque, roulotte que nous partagions avec Edmond et Raymonde, jumelles elles aussi, mais siamoises. Les fameuses siamoises de la Châtre, car originaires de cette ville. Vous le comprendrez, toute intimité avec Raymonde, dont je tombais amoureux fou, j'en étais dingue, était hélas impossible. De même que toute intimité entre Edmond et mon frère était impossible. De plus, pour compliquer la situation, Raymonde était résistante, tandis qu'Edmond était collabo. Nous étions donc voués à la séparation, malgré nos affinités tant électives que j'aimais l'air. Mais c'est une autre histoire, ce qui est arrivé, alors j'en chiale encore. Bonne émission.
Merci.
La bande originale.
Parlons un tout petit peu de François-Xavier de Maison aussi, à vos côtés. C'est un partenaire. Vous aviez déjà joué ensemble?
Non, alors on est très amis dans la vie. Et il avait fait, il débutait. Tout petit rôle dans un film, j'avais joué Tout pour plaire avec Godrej, Judith Godrej, ouais, chez Anne Parillo. Et il faisait un agent immobilier, on s'était rencontrés comme ça. Après, on est devenus très amis, il a eu le succès qu'il a eu, qu'on lui connaît. Et on avait envie de retravailler ensemble. Et quand j'ai lu le film, j'avais dit même à Anne qu'il ferait un agent formidable. Et il est touchant, il est gentil comme agent. Et il en prend plein la gueule, voilà. Et je trouve qu'il compose un truc qui est pas caricatural en fait.
Il subit la situation.
Oui,
beaucoup.
Il subit, mais il est quand même très gentil avec elle. Et en même temps, il lui dit la vérité, parce que le rôle d'un agent, c'est compliqué. Hein.
C'est aussi ce statut un peu ambigu. L'agent, il est quand même très très proche de sa comédienne et il doit lui dire sans la vexer, sans la bouleverser.
Le problème, c'est que les agents, à un moment donné, ils sont obligés de dire la vérité. Ouais. Ne serait-ce que parce qu'il y a une réalité. Quand une actrice ou un acteur reçoit plus de scénarios ou de propositions, on ne peut pas lui dire « les gens te veulent à mort ». Ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose de concret qui n'arrive plus chez toi. Il n'y a plus de scénarios. Donc les agents sont obligés de dire « bah oui ». Il n'y a plus de désir.
En fait,
c'est compliqué comme rôle. Hein.
Le problème, c'est qu'elle n'a plus, la star que vous incarnez n'a plus de rôle. Lui finit par obtenir...
Une comédie.
Parce qu'il y a une défection de dernière minute.
Parce qu'il y a un refus d'une fille. Hein.
Et en fait, elle dit, reportez le film, je ne suis pas prête. Sous-entendu, il faut que je dégonfle
des lèvres. Si je puis dire.
Il peut m'attendre.
Et il ne peut pas t'attendre parce que
je me suis mis à genoux pour qu'il te prenne sans faire d'essai.
Il ne voulait pas de toi.
Donc, il n'y a pas d'autre solution.
Ouais, c'est terrible.
Voilà. Et c'est de là qu'arrive toute l'intrigue.
Mais ça,
finalement.
C'est vrai.
C'est le point de départ.
C'est vrai, c'est absolument pas fiction. Enfin, c'est la réalité.
Que des films peuvent ne pas attendre une actrice principale.
Bah d'abord, on est nombreuses, donc on est, comme dit Besnéard, une carrière se fait sur le refus des autres aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des films que des actrices ont refusés et vice-versa. D'abord, on est nombreuses et quand on a un scénario et qu'on n'est pas libre ou qu'on peut pas, ça c'est quand ça marche bien. Hein. Je ne parle pas de Julie dans le film. Et on est remplacé, oui, par d'autres, parce qu'à 50 ans, on n'est pas très nombreuses, mais il y en a d'autres. Donc on est remplaçable.
Et le rapport avec Marianne Chazelle aussi, qui joue le rôle de...
Ah, c'est ma mère, la mère de Julie. Alors elle a gardé ce secret, elle n'a jamais osé lui dire.
La mère de la star. Et elle sait qu'il y a une sœur jumelle.
Bien sûr. Et d'ailleurs, Marianne, c'est pareil. Moi, j'avais envie de travailler avec elle. Je trouve que c'est bien de voir Marianne Chazelle dans un rôle comme ça. On n'a pas l'habitude.
Oui. Elle est très émouvante.
Ouais. Oui, très émouvante dans un rôle comme ça, très touchante, cette femme qui a gardé
un secret. On a l'habitude de l'avoir en sur-régime, toujours très, très énervée, en panique.
Très drôle, très... Oui, ouais, mais là, elle est dans un rôle sensible. Ouais. Là, voilà, elle a des jolies scènes.
Et même elle se prend 2-3 retours de manivelle extrêmement violents de la part de la star. Ouais. Hein, parce qu'elle est odieuse, cette star, mais pas qu'avec son...
avec sa mère aussi.
Sa propre mère aussi. Elle est globalement...
Elle est névrosée.
Elle est seule.
Ça, névrosée, non, mais c'est ça. Ouais.
Quand t'es odieux, hein, Nagui.
À ce propos, puisque t'en parles, le voici, Guillaume Auguez.
Ça va les amigos?
Ça va, non.
Ça va. Vous savez, parfois je pense à la mort et je me demande qu'est-ce qu'il me faudrait pour être vraiment heureux. Et là, il y a une petite voix qui me dit un peu de respect de la part de Nagui. Et je me fais, non, il me faut un truc réaliste. Ne fût-ce qu'un petit WhatsApp de Penelope Cruz qui me dira Ernesto, j'ai bien réfléchi, j'ai envie de lécher 60 cm² de ton corps. En vrai, je suis pas difficile. Mais j'avoue que j'ai pas le moral en ce moment. Je me sens un peu trop sur cette planète. Quoi que je fasse, j'ai l'impression d'avoir un impact négatif sur mon environnement. Genre l'autre jour, je faisais un feu avec des pneus pour lancer un barbecue. Genre, c'était la première fois que je mangeais du panda, tu vois. Et c'est rien d'exceptionnel d'ailleurs. Franchement, c'est entre l'agneau et l'épervier, 40 euros pour ça, ils sont gonflés dans les os. Eh bien, je me disais, Ernesto, ce qui serait bien, pour éviter de te sentir coupable en permanence d'exister sur Terre, eh bien, ce serait de quitter la Terre. Or, appeler ça coïncidence ou juste introduction un brin laborieuse pour enfin arriver au sujet de cette chronique, la NASA a annoncé récemment qu'elle enverra à nouveau des humains sur la Lune. Et je me suis dit, ah, elle est là la solution, je me casse sur la Lune, nom d'une huître. Eh bien, je fais encore une saison à la bande originale, ne fût-ce que pour percer le mystère Daniel Morin. Combien sont-ils dans sa barbe? Est-ce que là, c'est là que se niche Xavier Dupont de Ligonnès? Une saison de plus, et puis je rejoins la NASA, parce qu'apparemment, la formation, c'est pas, tu vois, genre, il faut ces deux semestres en cours du soir à Levallois-Perret, c'est pas, tu vois, c'est pas pire que quand tu veux devenir moniteur, tu vois. L'examen, c'est que des questions sur Interstellar. Moi, j'ai vu le film, j'ai compris une partie de la première partie, donc, astronaute, ça va, je pense, ça tu va. Vois. Et après, j'avoue que la Lune, en soi, c'est pas mon premier choix pour mon exil, parce que depuis 72, il y a plus personne qui a mis un pied.
C'est louche.
Elle doit être dans un de ses états. Ouais. La Lune, franchement, j'ose même pas imaginer d'y avoir des tags partout, franchement, des seringues, du lichen. Moi, à mon avis, avant d'envoyer des cosmonautes, il ferait bien d'envoyer une équipe de nettoyage, quoi. Celle de France Inter serait parfaite d'ailleurs. Quand t'as nettoyé les toilettes de France Inter, tu peux clairement nettoyer un astre. Tu peux rien voir de plus dégueulasse. Au-delà de ça, la Lune, ça fait plus rêver grand monde. Allez, en 69, ça a un tout petit peu buzzé à la télé parce qu'il y avait deux chaînes à l'époque, tu vois. À l'époque, t'avais le choix entre Neil Armstrong sur la Lune et Guy Lux sur Interville, quoi. Franchement, même Armstrong, il était pas dupe dans son autobiographie qui était appelée La Lune, franchement, j'ai vu, j'étais déçu. Eh ben, il a reconnu que sa vraie réplique, c'était un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais si j'avais su, franchement, 380 km pour voir cette merde, je restais à la maison avec mon lapin. Et donc, on est resté en 69, tout le monde devenait fou. En 72, plus personne voulait aller sur la Lune, quoi. C'est devenu ringard à une vitesse. Même le patron de la NASA, il a déclaré, notre but final, c'est d'aller sur Mars, pas d'être coincé sur la Lune, putain. Pas d'être coincé sur la Lune. On a pris une c'est confiance, sapiens sapiens. Il y a 150 ans, on volait en montgolfière, tu vois. Deux coups de vent, tu terminais dans un arbre. Vraiment, pour te décrocher, t'appelais les pompiers, ils arrivaient à cheval. Non, en disant, on va attendre l'automne que les branches. Ça, c'était nous, il y a 150 ans. Maintenant, on n'a pas envie d'être coincé sur la Lune. Sérieux, la NASA, il parle de la Lune comme si c'était un camping dans le Loir-et-Cher, tu vois. En mode, oui, là, pour le moment, j'ai pas les moyens d'aller à Ibiza. Mais attends que j'ai touché mon 13e mois. Tu vois, vraiment. Et c'est vraiment l'administration Trump qui pousse pour qu'on y retourne le plus vite possible avec un buzz à la clé. Pour la première fois d'histoire, une femme devrait fouler le sol. Lunaire, et on sait pas encore qui, il reste une place à prendre, Leïla.
Ouais.
Un mot de vous, on va sur la Lune, hein. Vous pouvez prendre autant de bouquins que vous voulez dans la navette, vraiment. Bon, une fois arrivé, faudra qu'on soit discret parce que tu peux pas ken sur la Lune, hein. C'est trop éclairé. Ça va de la Terre avec le zoom d'un iPhone, tu peux voir les positions, en tout cas, quand c'était embrouillé sur quoi tu peux deviner, tu vois. Donc finalement, c'était pas une mauvaise idée qu'on soit pas coincé là. Bonne émission, les amis.
Merci, Guillermo.
La bande originale, Nadi, sur France Inter.
Ce mercredi, au cinéma, ni une, ni deux. Minuit blanche dans les regards, parce que c'est vrai que c'est le regard des autres qui est très important pour la star en question. Et ce qui est amusant, c'est que sa sœur jumelle, elle, est coiffeuse, donc elle fait tout pour rendre les autres belles aussi et agréables au regard des autres.
C'est deux opposés.
Ouais. Et c'est fort, et c'est drôle, c'est émouvant. Il y a cette mise en abîme de voir aussi comment ça se passe dans le cinéma. C'est pas très loin de la réalité, finalement.
C'est
les ambiances
tout à
de
fait
tournage,
la réalité.
Le catering, les techniciens,
le régisseur,
les maquilleuses coiffeuses qui parlent entre elles et qui ne connaissent pas la star, mais on m'a dit que cette espèce de rumeur qui doit réellement exister sur les plateaux, on ne sait pas comment ça va se passer.
Dans nos métiers, ouais. Vous connaissez, on connaît tous.
Mais il y a
journaliste.
Mais il y a la rumeur qui arrive avant, et puis après, il y a celui ou celle qui arrive sur le plateau qui doit se faire adopter par une équipe déjà existante, quoi, qui s'est elle choisie.
Oui, mais de toute façon, c'est très bien vu sur le métier et très bien vu d'une manière générale avec deux personnages tellement opposés que c'est ça qui est très chouette à jouer, c'est qu'elles sont tellement différentes, tellement.
Et qu'est-ce qui va se passer quand les deux vont se rencontrer, se retrouver et se parler?
Non, ceci dit, je dis que Julie, elle est odieuse, mais à la fin, elle est rattrapée et. Elle dit d'ailleurs une chose qui est jolie quand même, que quand on est actrice, on est tout le temps scruté, jugé, regardé. Ça, c'est vrai.
On va parler de la musique dans votre vie. Elle compte énormément. Vous écoutiez gamine Jacques Brel.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue.
Ça, c'était plutôt maman ou papa qui écoutait Jacques Brel?
Papa.
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 On l'embrasse. Il nous écoute, papa?
Il nous écoute, j'espère. Il adore Brel. Fou de Brel.
Et 68, c'est l'année de votre naissance. Et à la maison, vous dites qu'on ne parlait que de théâtre. Pour replacer l'environnement familial, vos parents sont décorateurs. Et vos grands-parents sont sociétaires de la Comédie Française.
Ouais, donc, mon grand-père est doyen et ma tante est sociétaire de la Comédie Française. Et on vit tous dans le même immeuble.
Dans le même immeuble. Ça, c'est fou, ça.
Au cinquième, il y a Françoise, mon grand-père, et nous, on est au premier. Une vie, un immeuble.
C'est joyeux, ça. C'est génial. C'est joyeux, ça, comme souvenir.
Ouais, c'était rock'n'roll.
Pourquoi rock?
Bon, parce qu'il y avait du tempérament, beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère.
Et vous passiez beaucoup d'un appartement à l'autre?
Ah oui, moi je montais beaucoup au cinquième, ouais. J'adorais mes grands-parents. Et ouais. On est très famille chez les Seignets. Ouais.
Et le musical aussi, c'était une passion d'enfance?
Moi j'aimais le musical, j'aime la chanson française, j'aime le musical et j'aime les imitateurs. J'aime le musical, vraiment ouais. Beaucoup, presque plus qu'actrice. Et j'aurais aimé faire ça.
C'est-à-dire chanter, danser, faire du spectacle?
Oh, pas danser, parce que je danse très mal. Musical. Mais oui, le musical, enfin, les imitations, tout ça, le show. Voilà, okay. J'aurais adoré faire ça. Et puis comme ça a marché
cabaret.
Comme actrice, ouais. Voilà. Mais comme ça a marché comme actrice, j'ai fait actrice.
Comédienne, ouais.
Voilà.
En 95, vous écoutiez Céline Dion.
J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts. Tu m'aimes encore, je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges.
Quelles images vous avez quand vous entendez Céline Dion chanter cette chanson?
Ça ne vieillit pas, je trouve. Quelle image?
Ouais, c'est ça. Ça vous renvoie à.
Je sais pas. Je trouve que non, c'est même pas ça. Je trouve d'abord elle chante, c'est hallucinant la voix qu'elle a. Goldman. L'association de Goldman et elle, cet album est intemporel, il vieillit pas, je trouve qu'il est, au-delà des modes, au-delà de tout. Et la dernière chanson qu'il a écrite pour elle, Encore un soir, c'est exceptionnel aussi. C'est-à-dire que Goldman est un très
c'est quand elle a perdu son mari. Oui.
Ouais. Et je trouve que voilà, Goldman est très très bon. Quoi.
Clairement. Ouais.
Et elle qui chante Goldman, c'est waouh. Non, j'adore Céline Dion, moi, j'adore, mais. Toutes ses chansons, j'adore.
Vous êtes rencontrée?
Oh, non, je la connais peu. Elle est très gentille. Je l'avais vue une fois. On l'avait croisée avec Laurent Gérard quand il y a au Fouquet's et elle est adorable.
Ah, avant la fermeture.
Avant les gilets jaunes. Oui, c'est vrai qu'il existe.
Ah oui, non, c'est fermé.
J'avais oublié, c'est fermé.
Et revenons en 95 avec votre premier grand rôle au cinéma, c'était Rosine.
Oui.
De Christine Carrière, et là on parlait tout à l'heure de l'emploi de l'actrice, celle qui peut jouer tous les rôles, et là vous interprétiez une jeune mère dans un milieu ouvrier, et vous avez décroché le prix Michel Simon pour cette prestation.
C'était les débuts de mon premier film, donc, et en fait moi, les gens ne le savent pas forcément, j'ai commencé par le cinéma d'auteur. Au fond, j'ai tourné avec Claude Miller et j'avais cette espèce de carte cinéma d'auteur. Rosine était totalement un film dans le Nord, c'était rude, qui a eu beaucoup de prix.
Ça aurait pu être un Dardenne, quoi.
Voilà.
Exactement. C'est ça pour placer un peu.
Et j'avais d'ailleurs, j'ai fait le premier film de Stéphane Brisé, Le Bleu des Villes et tout ça. Et moi, j'avais une espèce de, comme ça, de carte cinéma d'auteur. Harry, un ami qui vous veut du bien, à Cannes.
C'était vachement bien, ça aussi.
C'était vachement bien. Ouais. Ça a rencontré, c'est rare, c'était à la fois chic et ça rencontrait le public.
Stéphane Brisé aussi, ça a marché aussi.
Oui, 2 millions d'entrées. Mais c'est assez rare que le cinéma d'auteur rencontre le public.
Succès, ça, c'est rare. Et qu'est-ce qui a fait que, justement, votre première famille soit celle-ci?
Jusqu'à Vénus Beauté, qui avait été nommée au César, Nettoyage à sec, tous ces films-là étaient assez, ce qu'on appelle, avec la carte.
Ouais.
Et puis, je crois qu'un jour, j'ai dû faire Camping, je crois que c'est un film qui s'appelle comme ça.
Non, mais avant de passer dans le cinéma populaire, cinéma qu'est-ce qui a fait qu'au début, en tout cas, ça a été par hasard, les rencontres?
Parce que Rosine est un film qui a eu des prix.
Mais avant d'arriver à Rosine, justement.
Avant, c'est mon premier.
Oui, mais comment on arrive là, et on aurait pu très bien vous choisir pour une comédie romantique.
Ouais,
et...
non.
C'est un
hasard. Je me suis retrouvée dans ce film d'auteur.
Ouais.
Qui a eu une cote incroyable de critiques, de... Voilà, et puis j'ai fait donc pas mal de films comme ça d'auteur, et puis tout d'un coup, une hirondelle, et voilà.
Chaque fois vous avez reçu des prix, vous étiez nommé au César, que ce soit pour...
Ouais, j'étais nommé beaucoup.
Harry et Anami, oui, vous avez même pour le Code Milan aussi, vous avez eu le prix d'interprétation féminine au Festival du film, des films du monde. C'est passé à Montréal pour Mitty Fisher. Vous savez pas que vous avez eu le prix?
Non.
Bon,
faudra peut-être aller chercher.
Ouais, il y a un moment, ils vous attendent. Ils vous attendent.
Je me rappelle plus.
Arrive 2006.
Je suis Rital et je le reste. Et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes
collègues. Donc je suis dingue de bas.
C'est vrai.
Le cercle d'œil à camping.
Ouais. Ah bah c'est moi qui l'avais chez Maître Fabio. Je suis dingue de Claude Barzotti.
Ah, c'est vous qui avez demandé à ce que Barzotti soit dans la BO.
Bah, oui, on en avait parlé avec Fabien Antoniente. Bah moi je trouve que c'est tout à fait juste. Puis il y a de l'émotion dans sa voix. Il y a quelque chose qui me plaît. Moi je sais pas. J'adore Barzotti depuis toute petite.
Mais moi j'aime ses voix, italiano, françaises aussi, cochantes quand il fait le coup de soleil. Et ça. Mais non, mais c'est des voix italiennes qu'on n'entend plus d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Il y a
et
plus
puis
de,
ses textes m'ont toujours fait pleurer. Je sais pas pourquoi.
Peut-être parce qu'ils sont nature, simple. Ils racontent des histoires.
Non, parce qu'il n'écrit pas, il décrit. C'est un descripteur, donc il dit le parfum de cette femme qui passe. Je sais pas, je peux pas te dire.
C'est réaliste.
C'est de la chanson olfactive.
Et quand tu chantes avec une angine, ça fait toujours chier à les gens.
Ouais, mais c'est sexy d'avoir une angine.
Et 2006, donc c'est Camping, le carton, 5 millions d'entrées. Fabien Antoniente, qu'est-ce qui fait que vous acceptez, sortie de cette période auteur où on a la carte, d'aller vers ça? Est-ce que vous vous dites c'est un risque ou pas, ou vous calculez
non,
pas?
Non, je me dis rien sur le moment. Mais il y avait une hirondelle avant. Je crois que c'était avant qui avait beaucoup marché. J'avais fait Mariage, qui avait beaucoup marché. Tout pour plaire, qui avait énormément marché aussi. Il y avait eu des gros succès, mais je sais pas, Camping, Camping, je réfléchis pas. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être dans Camping aujourd'hui. Hein, vous savez, c'est compliqué. Puis le succès, et puis je sais pas, Franck Dubosc, Gérard Lanvin, le Campignien était épatant et... Je ne crache pas sur ce cinéma-là.
Non, vous n'avez pas de regret,
mais aucun regret, aucun regret.
C'est simplement que vous avez la sensation que le passage par ce film-là a un peu atténué des regards...
Des auteurs ont dit « c'est dommage qu'elle fasse ça ».
Mais il faut arriver à les convaincre que...
Ouais, ça peut empêcher Christiane Arréali de le faire aussi, ça peut empêcher... Enfin, il y a le casting et... Ouais, et quand on est acteur, on n'est pas auteur du film non plus.
Non, d'abord, et puis en plus, Camping,
on peut pas vous faire porter
c'est
la responsabilité.
Chouette. Camping, c'est touchant, c'est émouvant.
C'est hyper populaire, ça a marché.
Il y a Gérard Lanvin, il y a Antoine, il y a plein d'acteurs vachement bien.
Antoine
non,
Dillery,
je trouve que, Antoine Dillery, je trouve que ça plaît au public. L'idéal serait de faire Camping et Rosine.
Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est plutôt un message envoyé au métier.
Ouais, c'est ça. Ils mettent dans des tiroirs, mais en même temps moins, parce que regardez cet acteur que j'adore, là, Jean-Paul Rouve, il fait Les Tuches, et en même temps, il fait aussi des films sensibles.
Clairement,
moi, je pense qu'il faut tout faire, du théâtre privé, du théâtre public, de tout. Si on s'enferme dans une chapelle, c'est compliqué, parce que si cette chapelle, entre guillemets, brûle, ce qui est très très mauvais goût, puisque...
Comme vanne,
c'est une vanne. Non, mais enfin, c'est une expression, mais enfin, bon, pense à Notre-Dame. Mais voilà, on n'a plus rien. Si on fait partie que du cinéma d'auteur et que le cinéma d'auteur se monte plus, donc faut essayer d'ouvrir et la télévision.
Oui, c'est ça.
Car
aussi.
Moi, je fais aussi énormément de télévision.
Ça veut dire que finalement, cette ouverture-là, elle dépend pas de vous en tant que comédienne. C'est de ceux qui décident.
Non, c'est les gens qui. Je me portais.
Non, mais c'est très énervant.
Oui, je vois. Elle parle à son sac, en fait.
Non, je parle pas à mon sac.
Si tu parles à ton sac,
j'arrive pas à l'éteindre.
Mais vous l'appelez Jean-Claude depuis tout à l'heure.
Non, on disait que la décision, en fait, elle importait pas tant aux comédiens de vouloir voyager, comme vous le disiez, entre du théâtre public privé, du cinéma d'auteur.
Du cinéma d'auteur, du cinéma populaire et de la télévision aujourd'hui qui montait en gamme. Parce que maintenant, c'est presque chic de faire de la télévision.
Absolument.
Mais ça dépend pas de vous, finalement, de faire à la fois ce grand écart et d'être autorisé
sur
les deux plateaux.
Ça ne dépend pas du tout de moi.
On va reparler de Ni une ni deux, ce film sur les deux jumelles, jouées toutes les deux par Mathilde Seigné, avec ce film signé Anne Jaffery, avec Fabrice Bach. Bonjour Fabrice, merci de venir à ce micro. Vous êtes psychologue et spécialiste du développement des jumeaux. C'est vraiment un lien particulier entre deux jumeaux. Ils sont quoi? Ils sont en Bluetooth?
Ils peuvent en permanence.
Ils sont reliés en permanence.
Il y a un lien spécifique. Ils ont passé 8 mois in utero l'un à côté de l'autre. Donc c'est un lien qui restera à vie. Et notamment lorsque l'un peut perdre l'autre, ou il y a une séparation, comme dans le film, il y a une sensation de manque qui est là.
Et pourtant, est-ce qu'il peut y avoir des caractères aussi opposés, même si à la fin ils peuvent être complémentaires d'ailleurs, entre des jumeaux? C'est-à-dire qu'il peut y avoir C'est l'éducation finalement qui rentre en ligne.
Tout à fait, parce que les jumeaux vont franchir différentes étapes pour se développer. Il y a une première étape dite de fusion gémellaire qui est tout à fait naturelle entre la naissance et deux ans. Quand on voit pour s'en occuper toute la charge de travail pour les parents, le nombre de biberons et de couches, ils se les font livrer par palette à la maison, c'est un peu lourd. Et ensuite, ils passent dans une seconde étape dite de complémentarité, où les parents, pour les différencier, vont leur attribuer des caractéristiques différentes et souvent complémentaires. Vous prenez les deux, vous avez
C'est les parents qui, inconsciemment,
pour les différencier. L'un est plus doux, l'autre est plus colérique, l'un aime le sucré, l'autre le salé, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et si jamais on les fige dans cette période-là, ben c'est exactement ce que peut envoyer le film à un moment donné. On va avoir deux caractères complètement opposés.
Et pourtant, le réflexe souvent, quand on croise des potes qui ont des jumeaux, c'est qu'ils les habillent de la même manière. Ça, c'est pour aller plus vite, on perd pas de temps.
Alors, quand ils sont petits, oui, c'est plus rapide.
50% sur la deuxième.
Mais maintenant, fort heureusement, bon, ils font quand même des différenciations, les parents le font, mais il y a toujours cette fascination de la gémilité. Oui. Vous prenez votre enfant unique, vous prenez dans la rue, on vous dit rien. Une mère de jumeaux sort avec ses enfants dans la rue pour aller acheter du pain à 500 mètres, il faut 20 minutes. Elle va être arrêtée tous les 5 mètres. D'accord. Oh, des jumeaux, c'est des vrais ou des faux?
Ce que vous dites, c'est exactement pareil, garçon, fille, que ce soit deux jumelles ou deux jumeaux,
on est vraiment dans
les mêmes choses.
Ouais, tout à fait.
Les émotions ressenties par l'un des deux, quand on dit ils sont reliés en Wi-Fi ou en Bluetooth, c'est vraiment ça. Si l'un a de la peine, l'autre va avoir un écho.
Effectivement en termes d'écho qui peut être présent. Les Américains, à l'époque de la guerre froide, avaient fait des expérimentations pour envoyer un jumeau chez les Russes et en garder un chez eux. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Mais toujours est-il qu'il y a une perception qui est là, de la souffrance de l'autre. Et c'est vrai qu'une sensibilité qui est là entre eux et une présence qui restera à vie.
Qu'est-ce qui peut, où se nichent les différences dans le caractère? Pas dans l'ADN, c'est vraiment les mêmes gènes, c'est vraiment les mêmes...
Alors, chez les monozygotes, donc issus donc d'un même œuf qui s'est scindé, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Il y a quand même des petites différences sur le plan génétique, quand même. Des études très poussées ont été faites et on trouve des petites différences.
Les empreintes digitales ne sont pas les mêmes?
Parfois, on peut avoir des fortes ressemblances.
Sur les empreintes digitales?
Je crois.
Il paraît qu'elles sont différentes.
Il y a eu des cas où effectivement l'un a commis un crime et l'autre ils ont pris les empreintes et elles se ressemblaient énormément.
D'accord.
Alors après, c'est assez troublant.
Ah oui, il y a eu ces jumeaux là dont un était criminel. Ah,
tout à fait. Donc c'est assez troublant. Ouais. Mais en tout cas, il y a effectivement pour la majorité d'entre eux une différenciation qui est faite, notamment chez les jumeaux dizygotes. Bon, quand ils ne se ressemblent pas du tout, c'est très simple. Chez les monozygotes, la construction, ce qui se ressemble totalement, est un peu plus longue, puisqu'il faut se différencier de son co-jumeau. Ouais. Ils tous le vivent à l'âge adulte. Ils vont dans une grande surface. Ils passent devant un miroir, ils s'arrêtent une demi-seconde, ils ont l'impression que leur frère ou leur sœur est là. C'est troublant. Ouais. Et ils se rendent compte que c'est un miroir. Non, il n'est pas là. C'est pas possible.
Mais vous, en tant que psychologue, vous avez, sans dévoiler les secrets de votre cabinet, mais vous avez des jumeaux qui viennent vous raconter ça. Enfin, le trouble qu'ils ont à être double.
Oui, alors aujourd'hui, fort heureusement, on fait des consultations de prévention et on consulte des enfants déjà lorsqu'ils sont petits, voire des mères qui sont enceintes pour préparer la naissance des jumeaux, parce que ce sont des enfants.
Donc vous dites aux parents, attention, c'est vous qui allez attribuer un caractère.
On leur explique exactement
l'un sera coléreux, l'autre sera timide.
Puis attention à pas appliquer ce que j'appelle le manuel du petit Zazo, c'est-à-dire chercher à dégémelliser. Du petit Zazo appliqué. René Zazo étant un psychologue qui a travaillé sur les jumeaux en France.
Je ne savais pas et je demande. Quand je ne sais pas, je demande. Okay.
C'est un chercheur mondialement reconnu.
Tout à fait. Il avait
donc... Pas trop non plus.
Il est formidable. Il est très cultivé.
Et Jean-Claude Zazo. Il avait défini un terme qui visait à dire qu'il faut les dégémelliser. C'est faux. On ne peut pas dégémelliser. C'est une erreur. Il faut préserver ce lien qui est le leur. C'est pas, si vous vous rendez compte, la chance qu'ils ont. Nous, les singletons, les individus uniques, on va passer notre vie à trouver quelqu'un avec qui la traverser. C'est quand même assez enquiquinant, la vie à deux, c'est bien. Ouais. Eux, ils l'ont tout de suite. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un moment donné, il y a un moment
de peine. C'est spécial quand même aussi.
Quelqu'un est là pour les écouter. Lorsqu'un événement important va émerger ou va se présenter, une jumelle tombe enceinte, la première à être au courant, c'est la co-jumelle. Mmh. C'est pas les parents. Donc c'est ce lien qui est là.
Elle est au courant parce qu'elle le ressent ou parce que...
Elle sent qu'il y a quelque chose qui va lui dire. Et elle sent quelque chose qui est en train de se passer. C'est troublant.
Mais c'est terrible, ça veut dire quand l'un vient à disparaître, pour le coup, nous, les singletons, on est habitués à traverser un peu la vie tout seul, mais eux, ils perdent quelque chose. Bah, je reprends l'expression.
Tu peux écouter l'émission, Nagui
Single. mais eux, pour le coup, ils perdent la perte. Elle va au-delà d'un deuil simple pour nous.
S'ils étaient en totale fusion, effectivement, ça va être très problématique. On a des jumeaux qui vont le fantasme de si mon co-jumeau décède, je partirai avec lui. Maintenant, s'ils ont atteint humain une phase d'autonomie tout à fait naturelle. Ils ont un lien qui est privilégié. Et malheureusement, on peut le souhaiter à personne, perdre son co-jumeau, c'est très dramatique. C'est rare, fort heureusement, mais quand ça arrive, c'est une grande souffrance à traverser et on les accompagne par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a l'un des deux est dominant? Est-ce que l'idée de se dire, d'abord il y a un ordre de naissance, il y a forcément un qui est né de l'autre.
Ben, oui.
Est-ce qu'il est supérieur? Alors, est-ce que là, psychologiquement...
Heureusement.
Non, vache. L'ordre de naissance était très important il y a des années cela par rapport à la succession.
Ouais.
Le premier-né avait tous les droits et donc le deuxième qui arrivait derrière, pas forcément. Et donc, comme je l'ai
pour l'héritage, carrément.
Ah oui, c'est la question d'héritage, du titre. On est 200 ans en arrière.
Okay.
Donc, il fallait bien définir qui était le premier-né. Aujourd'hui, non, c'est complètement différent, ce qui va se présenter.
Mais est-ce qu'il domine quand même, celui qui est né
alors,
le premier?
Non.
Psychologiquement.
Alors, dans la phase dite de complémentarité...
Déjà, pardon, dans le ventre, il y en a peut-être un qui est plus fort que l'autre,
Il y a des échos qui sont magnifiques. Hein. On voit les jumeaux en interrelation in utero. Ils se touchent, et certains prend le pouce de l'un pour le sucer, enfin c'est magnifique à voir. Et effectivement, lorsqu'ils viennent au monde, dans la phase de complémentarité entre 2 et 6 ans, on va leur attribuer des caractéristiques différentes, complémentaires, et l'un va être dominant par rapport à l'autre, mais ça change en permanence. Ce qui devient problématique, c'est si ça se fige. Si à un moment donné, ce lien de dominant-dominé se fige, ça peut donner de graves problématiques ensuite à l'âge adulte, ou pour se différencier, l'une des jumelles que j'ai consultées n'a rien trouvé de mieux que de piquer le mari de sa sœur.
Oh là
ah oui, là, c'est compliqué.
C'est une attention particulière.
Bah,
c'est
oui, tout. Évidemment.
Nouvelle idée de film.
Oh là là.
Merci beaucoup, Fabrice Bach, d'être venu à ce micro. On va continuer de parler de ce film Ni Une Ni Deux avec Mathilde Seigné et François-Xavier de Maison, signé Anne Jafferi. Mais d'abord, Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour, Tanguy.
Bonjour.
L'homme aura donc attendu 2019 pour créer l'aspirateur qui hurle.
Oui, c'est un développeur informatique qui a fait ça. Il a équipé son aspi d'un capteur et à chaque fois que l'engin tape dans une commode, il crie de douleur. Comme Ray Charles Naguère, mais en aspirateur. À fonctionnalité comparée, ça ne sert donc plus à rien d'avoir un conjoint. D'autant que faire l'amour à son aspi en vitesse 4, c'est aussi sympa.
Ah ouais.
Tu sais de quoi on parle, hein?
Oh, par cœur.
Oh, par cœur. On parle de tout ça après les infos de midi.
À tout à l'heure.
Bande originale avec Léa Cadeau-Boudali, Daniel Morin, Albert Aljou, Tanguy Pastureau, Guillaume Auguiz et notre invité Mathilde Seguin.
Bravo.
Ce mercredi 29 mai, donc dans deux dodos, avec Mathilde Seigné à l'affiche de ce film Ni Une Ni Deux, film signé Anne Jafferi, avec François-Xavier de Maison, Ariel Mallet, Marianne Chazelle, Nicolas Briançon, Vincent Regan, Axel Daudier, Marie-Julie Baupe. Une opération de chirurgie esthétique tourne mal pour une actrice célèbre, mais qui a sa carrière qui est en train de piquer un tout petit peu du nez. L'opération, elle, c'est au niveau des lèvres. Elle s'est opérée parce que sa carrière...
De la bouche, oui.
Voilà, c'est malin. Maintenant, on a l'image. Et donc, l'opération se passe mal, ce qui fait qu'elle va faire appel à une fille qui lui ressemble, et elle se dit simplement « elle me ressemble, rien de plus ». Sauf que cette fille en question, c'est sa sœur jumelle. Elle va le découvrir au fur et à mesure que les choses vont progresser, mais elle, la sœur jumelle, elle est parfaite à tout niveau, elle est gentille, solaire, positive, avec un cœur. Ouais, c'est ça.
Elle vient du sud, exactement.
Ouais. Lorette, tout de suite. Lorette. On a l'image.
Ça sonne.
La chanson.
Ouais. Ça sonne. On a l'image de la chanson. On a l'image de la place de village. On a l'impression d'être du côté d'Aix-en-Provence.
D'Anthéron.
C'est super joli.
Ouais. Ouais, c'est le plus grand festival, je crois, de piano.
Piano, oui.
Il sait tout, Albert.
C'est pour ça que je me tourne vers lui, pour être sûr.
C'est un puits de lumière.
C'est un puits tout court. Ouais.
C'est un puits tout court.
Sans fond.
Oh, si. Il a un fond. Ah, les salauds.
Et il y a aussi des histoires d'amour, parce que c'est vrai que cette star de cinéma, elle n'a pas trop de vie privée. Même avec sa propre mère, elle n'est pas généreuse, elle n'est pas amoureuse, elle n'a rien.
Elle est dure. Elle est dure, elle est sur elle, à mort. Donc elle a... Quand on est sur soi comme ça, on n'attire personne vraiment. Elle est seule en fait.
Comment vous êtes, puisqu'on l'a dit, on l'a redit, votre talent fait qu'on voit très bien qui est qui, sans se demander est-ce qu'elle a une chemise verte, une chemise jaune pour pouvoir les reconnaître. Comment vous êtes donné ce visage froid, dur, sec de la star? Vous êtes amusé à jouer les pimbèches.
Inspiré de qui?
L'œil triste, c'est vrai.
L'œil triste, exactement. J'ai observé des actrices... Et puis après, c'est plus facile de jouer deux personnes quand une est absolument opposée à l'autre. Oui. Marqué la différence. Après,
j'avais dû prendre un malin plaisir. Je pense à cette scène d'interview où vous êtes devant 4-5 journalistes.
Ah oui, elle demande un thé.
Et oui. Ouais. Et soi-disant, elle est très. Non, mais l'important, c'est le rôle, c'est le personnage.
Le film. Vous savez qu'il faut pas faire de caprices.
Et puis j'avais demandé un thé Wallang.
Il faut rester, humble.
Mais j'en ai vu, hein.
Il y en a comme ça, ouais.
Et péter un câble en deux secondes.
Oui, oui. Oui, des actrices. Oui, il y en a plein.
Mais ça vous démange pas. Alors là, quand vous êtes à côté de l'actrice en question ou à côté de l'acteur qui pète un câble, vous, il n'y a pas deux secondes où vous dites « Mais calme-toi, parle pas comme ça ».
Si, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de tourner. Oui, oui, ça m'est arrivé de dire à des actrices.
À des partenaires, non, ça se fait pas, quoi.
Ah oui, oui, oui.
Et là, vous passez quoi pour une...
Oui, des filles en retard, mais pas forcément connues, hein. C'est pas les plus connus qui sont.
Donc c'est pas la notoriété qui donne le boulard.
Non, non. Il y a boulard, il y a melon de Cavaillon très très vite. C'est Cora Cavaillon très rapide.
Catégorie 5.
Très vite.
Le syndrome de Cavaillon.
Ouais, le syndrome de Cavaillon, je l'appelle. Ça fait rire tout le monde, mais c'est vrai, le petit séjour à Cavaillon.
En même temps, on peut comprendre qu'une star qui arrive sur un plateau de cinéma, elle peut pas non plus claquer la mise à tout le monde. Il y a son technicien.
Je sais pas, Nagui, parce que moi je trouve qu'on peut très bien être gentil et claquer la bise. On fait ce qu'on veut.
Je parle du temps que ça prend, hein. Je parlais pas de ne pas le
faire.
Ah
oui, du temps que ça prend. Non, mais moi, je claque pas la bise à certains tous les matins, mais je dis toujours au revoir et tout
bien
ça.
Sûr,
on peut
sûr,
pas
oui.
faire les 62 ou 70 personnes, ça c'est autre chose. Mais l'amabilité, je pense qu'on peut toujours être aimable.
Tu vois, Nagui?
Au moins.
T'es sûr?
Oui, mais Nagui est très aimable.
C'est pour les stars.
Non, mais je sais pas, c'est compliqué parce que les actrices, c'est quand on devient un peu connu, on est tout le temps dans le protocole, on est tout le temps assisté complètement, on n'est plus capable de se faire un café, plus capable de rien, donc on est tout le temps comme ça, sollicité, comme si on était des enfants, des bébés avec des nounous.
C'est agaçant.
Très agaçant. Et donc voilà.
En même temps, c'est plutôt confortable, pardon, d'être dorloté et d'être chouchouté.
J'aime pas ça tellement.
Ah bon?
Non.
D'être pris en charge. Là, vous étiez, on s'est croisé au Festival de Cannes. J'imagine que vous étiez pris en charge par le festival.
Le protocole.
Pour qu'on vienne vous chercher, pour qu'on vous coiffe, on vous maquille, on vous habille.
Il y a énormément d'hystérie. On fait 10 mètres et tout le monde est hystérique pour faire les 10 mètres. On se demande cette hystérie d'où elle sort. Mais enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais je veux dire que, oui.
Bah, elle sort du sucre. Que vous avez au cinéma, on peut comprendre aussi que des...
Tout est amplifié, voilà, on peut aller à pied aussi, non, il faut attendre le protocole, blablabla. Espèce d'hystérie à Cannes, mais enfin Cannes c'est la jungle dans la jungle, donc c'est encore autre chose.
Mais c'est vrai qu'on met une heure en voiture pour faire 10
mètres. Oui, on met une heure, alors moi du coup je voulais y aller à pied. Ah non, on me dit non, pas aller à pied. Voilà, mais ça c'est autre chose, Cannes c'est un monde à part, mais...
Je peux vous raconter un truc quand même, parce qu'on s'est croisés à la projection du film
de Claude Lelouch, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs.
Que nous recevrons demain.
Ouais, que j'aime beaucoup et je trouve le film très émouvant.
Et pour l'anecdote du festival de Cannes, en fait, on nous a précipité en disant faut partir, on monte dans la voiture, on part, sauf que ça roulait exceptionnellement bien, et donc on est arrivé trop tôt, on est resté, je vous mens pas, 40 minutes dans la voiture à attendre que le protocole passe par rapport à l'heure. Alors là, c'est la chaîne de télé aussi, c'est les diffusions, il y a un ordre de passage sur le tapis qu'il faut respecter, mais c'est juste ridicule de dire aux gens, dépêchez-vous, tout le monde dans les voitures, et puis après, il y avait une file de 10 bagnoles qui attendaient en plus à 50 mètres, alors qu'il y avait aussi des jeunes qui voulaient des autographes, mais il fallait pas sortir pour la sécurité. Il fallait
le bilan
pas...
carbone là-dedans.
Non, c'est presque
prendre une bagnole
pour faire 100 mètres.
Mais c'est une horlogerie fine aussi, c'est extrêmement bien organisé, faut le reconnaître. C'est le tapis rouge. Et le film de Claude Lelouch, on en parlera demain, c'est un film extrêmement...
Émouvant,
exactement.
C'est vrai.
Ni une ni deux, c'est au cinéma, ça sort ce mercredi avec Mathilde Seigné. Des moments aussi émouvants, des moments extrêmement drôles, avec François-Xavier de Maison, avec Nicolas Briançon aussi en metteur en scène.
Qui est super. Quelqu'un que j'adore, beaucoup de talent.
Qui est lui-même surpris d'ailleurs de voir à quel point cette comédienne revient sur le plateau alors que lui aussi s'attendait à avoir un boulet, et ben non, il a une fille géniale naturelle.
Il y a un personnage dont on parle strictement jamais en promo depuis le début de la promo, c'est Solange, le rôle que jouent l'une et l'autre.
Oui.
Comme je suis actrice, le rôle de la comédie, elle s'appelle Solange, qui a encore une autre tête. Oui,
avec une perruque.
Là, j'ai une perruque.
Ouais, c'est vrai qu'il y a trois, il y a trois personnages à jouer.
Mais trois.
On en parle, mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, nous sommes donc entourés d'objets sans âme.
Oui, prenez une table, ce meuble sur lequel Brigitte Macron dépose un saladier contenant deux tomates en rondelles avant de dire à son mari, mon petit bout d'amour, ça c'est ton déj, moi je vais prendre un radis sans sel parce que c'est fête. Bon bah c'est con une table, ça sert juste à manger ou à faire l'amour dessus si on est en début de relation et qu'on est tout fou. 15 jours après on le fait au lit, 1 mois après on ne le fait plus. Seul Cyril Lignac au début ne fait pas l'amour sur sa table parce que ça lui rappelle le boulot, hein, il risque de confondre et planter une fourchette à poisson dans sa partenaire. Oh. Si la personne est un peu refaite, le collagène vous gigue dessus. À la fin, on a la même tronche qu'un nouveau-né qui se débat avec le reste de placenta de sa rœur. Oh. Bref, les objets sont nuls. Mais on en achète quand même car nos vies sont vides. 2019 n'a aucun sens. Donc on accumule guéridon, lave-vaisselle, pot de fleurs, atelier des pyjamas, s'il y a 3 ans, on n'a pas mis de capote. Et pour autant, on n'est pas heureux parce qu'il manque une chose primordiale aux objets qu'il manquait aussi à Slobodan Milosevic. Une âme. Pardon, mais avec un canapé, on discute peu. Ou alors, c'est qu'on a vraiment un problème. Hein, c'est pourquoi, en général, on discute avec le professionnel assis au bout du canapé. Et qui, à la fin de l'heure, quand vous avez bien pourri votre père, vous dit, voilà, ça fera 140 euros. La semaine prochaine, on parle de cet oncle qui, non, n'avait pas à se mettre tout nu devant la télé quand, à 12 ans, vous regardiez la 5. Supercopter, c'était censé être une série, pas un mouvement du bassin, au sein de la famille. Or, le souci, c'est que les gens ne se rencontrent plus. À Paris, la moitié d'entre nous est célibataire et n'a personne avec qui partager cette haine d'Anne Hidalgo. C'est pourquoi un jeune développeur informatique a créé l'aspirateur qui parle. C'est-à-dire qu'il avait un de ses aspirons qui nettoie tout seul, là, alors que pour 6 euros de l'heure, vous avez une Philippine sans papier qui le fait aussi bien. Mais enfin, si vous êtes un peu raciste, bah vous vous tournerez vers un aspirateur comme ça. Il n'y a pas plus bête que ces engins. Hein, parfois, il tape 700 fois une commode avant de penser à faire demi-tour. Je pense que quand Doc Gynéco a passé son permis, ça donnait à peu près ça. Hein, sauf que lui ne nettoie pas, au contraire, il laisse des petits bouts de carton partout. Hein, c'est le petit poussé de la bœuf. Donc Michael Reeves, le jeune type, a installé un capteur sur son aspi ainsi qu'un haut-parleur et quand le truc se cogne, il hurle de douleur. On a l'impression d'entendre les Kids United avant qu'on retouche leur voix sur le logiciel Pro Tools. Mieux, il lui fait dire des insanités. L'aspirateur dit « Motherfucker, oh shit » ou « Donald Trump » si on est mexicain. Hein, cet aspirateur mais est presque humain parce que nous non plus, quand on se cogne, on n'est pas là à dire « Zut, j'ai mal hein, ». À ce moment-là, même Stéphane Bern hurle des trucs comme « Ah, punaise de Marie-Antoinette de bordel !» avant de dire à Laurent Deutsch « Bébé, j'ai fauté, punis-moi, traite-moi de républicain !» Et du coup, un aspirateur qui crie quand il a mal génère en nous de l'empathie. Moi, si un jour j'en ai un, à la première douleur, je l'invite au lunch pour le consoler.
Et donc, est-ce qu'on peut imaginer à terme que tous les objets se mettent à parler?
Mais bien sûr, Nagui, ainsi le rasoir de Daniel Morin. Les 2 fois par an où celui-ci se dira « Tiens, je vais me tailler la touffe faciale !» hurlera de douleur en glissant sur sa joue velue. Son rasoir l'écrira « Arrête, vieux, ce que tu fais là, ça relève plus de Jardiland que de Gillette. » Et enfin, on prendra soin de nos objets parce qu'ils pourront nous répondre. Moi, si ma bonnette en mousse de micro de France Inter, là, s'exclame « Dis donc, Pastureau, soit t'arrêtes le café, soit tu te mets au manteau à la pêche parce que là, t'as le gosier qui refoule le scout mort. » Eh bien, je me remettrai en question et je pourrais m'améliorer. Hein, je vous garantis que le jour où quand vous essayez, votre chaise fait « Aïe ben, !» vous vous mettez au régime. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé, regardez dans la rue. 50% des gens discutent avec Siri sur leur portable. Et ça se passe bien. Jamais Siri ne vous contredit. C'est l'avantage qu'elle a sur ta femme, auditeur. Quitte vite cette grognasse. Ah bah Siri, elle vous donne la météo, point. Elle n'a pas besoin d'ajouter « Ah bah ça, on va le payer plus tard !» Parce que les objets sont concis, ils sont intelligents. Mais bientôt, on pourra vivre totalement seul. Une épidémie de tuberculose décime la France. On s'en foutra, on aura nos objets pour taper la discute. Dès le matin, Xavier, le presse-agrume, vous dira « Ah non, t'as déjà fait du jus d'orange hier. Là, c'est mercredi, c'est pamplemousse. Hein » Puis vous direz à Babette, votre télé, tu sais, je suis fatigué, j'ai pas envie de réfléchir. Elle vous répondra, t'inquiète, ça arrive, je te mets Pascal Pro sur ces news. Bientôt, avec la voiture autonome, mais moi, je pourrais dire à ma Fiat Panda, emmène-moi à France Inter, chez Nagui. Elle me répondra, t'es sûr que tu veux pas aller plus tôt sur Europe 1? Parce que Cantelou, il palpe 150K par mois, soit 1000 euros mensuels par auditeur de la station. Et ainsi de suite. Hein, toute la journée, on va tchatcher avec de l'électroménager. Un magasin d'artistes, ce sera l'équivalent sonore d'un concert de Deep Purple en 72. Mais ce n'est pas encore le cas. Il nous reste quelques années avant que nos bonnettes de micro nous disent qu'on pue de la gueule. Alors profitons-en pour ne pas nous laver les dents. En plus, ça évitera d'avoir à causer avec notre brosse à dents.
Merci, Dr. Pastureau.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Patty de Seigné, notre invité, ni une ni deux, le film d'Anne Jaffery. Vous connaissiez le travail d'Anne Jaffery avant de la rencontrer?
Oui, oui.
Sur Fais pas ci, fais pas ça?
Ouais, l'écriture qui m'avait marqué d'ailleurs, Dès le départ, la série est très très bien écrite, très très drôle. Et après, j'ai appris que c'était Anne. Et puis, on avait un... En fait, on se connaissait pas vraiment, mais on avait un lien de... Pas de bande, mais... son mari, Thierry Bizot, est l'associé d'Emmanuel Chin.
Exact.
Qui était le mari de Valérie Guignat-Baudet, qui est décédé d'ailleurs il y a 3 ans. Donc, on avait ce lien comme ça, un lien un peu joli, un peu affectif comme ça.
Un peu touchant. Voilà, comment elle vous a dirigé? Puisque vous parliez de 3 personnages, parce que c'est vrai qu'il y a les 2 sœurs jumelles qui elles-mêmes interprètent une 3e.
Solange, le rôle de l'actrice. Voilà. Comment elle m'a dirigé? D'abord, elle est très, très, très exigeante, ce qui est très bien, parce que pour un film comme ça, il fallait l'être.
Elle sait exactement ce qu'elle veut.
Oui. On est à la virgule près parce qu'elle est auteur et on change pas le texte, rien, ça du tout, il n'y a pas d'impro. Après, elle était vigilante en étant très gentille, parce qu'il faut quand même être très gentil avec moi, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc elle a senti quand même qu'il y avait des jours, on tire un peu la langue en fin de journée quand même. C'était même un tournage difficile.
Ouais, j'allais dire jouer 3 personnages, 3 caractères, au sens pas forcément.
Oui, alors bon, Solange est différent parce que c'est l'actrice, c'est très court.
Mais sauf que l'actrice, il y a des jours où elle est solaire, parce qu'elle est interprétée par Laurette, et il y a des jours où elle est désagréable, parce qu'elle est interprétée par Julie.
Julie, Laurette,
et 2 Solange.
Solange 1
et les 2 Solange, une jouée par Laurette, une par Julie.
Et vous tournez dans quel sens?
C'est ça qui est compliqué.
Dans le désordre, dans n'importe quoi. J'en faisais une le matin, l'autre l'après-midi, mais c'était pas toujours la même.
Oui, c'est les décors.
Et si elle avait pas été là, Anne, très très vigilante, je pense que ça serait un peu n'importe quoi le film, parce que il fallait qu'elle soit tout le temps à dire, ah non, là c'est Julie, c'est pas Laurette.
Non, mais ça,
je retrouve la voix de Julie, celle de Laurette.
En tout cas, ça marche, justement. Au ton de la voix. Non, mais je vous le dis, ça marche. Alors, nous, on est public lambda, vraiment, on l'a regardé.
Ouais, ça marche très, très
bien. Et il y a sincèrement, au début, je me suis dit, ça va être chaud quand même de qu'il y ait.
J'avais lu
le pitch, je me dis, est-ce que ça va tenir? Et non seulement ça tient, mais je le redis, on se pose jamais la question de savoir avec qui on est, sauf quand volontairement vous voulez nous perdre vers la fin et que justement il y a un twist un tout petit peu qui
s'installe. On retrouve Julie dans le salon de coiffure à la fin, oui. Oui, c'est vrai. Okay. On retrouve son caractère même quand elle change de vie.
Exactement, exactement.
Tant mieux.
Au regard, au sourire, au ton de la voix, la tenue de la tête,
Je vais vous faire une confidence.
Quand je l'ai vue pour la première fois,
Mathilde.
Quand j'ai découvert le film dans une petite salle, dans le cinéma de Claude Lelouch d'ailleurs, Hoche, on était très peu. J'avais ma petite sœur à côté de moi et je vous cache pas, je jure que c'est vrai, d'ailleurs ma petite sœur aussi, j'étais un peu inquiète au tout début.
Ouais.
Je me suis dit, oh là, j'ai même eu... Je sais pas si j'avais envie de sortir. J'avais envie de sortir et d'attendre leur réaction et qu'elles me disent et que je le verrai une fois que... Parce que je me suis dit, ça va peut-être pas marcher. Franchement, sincèrement, je veux dire, quand on fait un rôle comme ça, on peut passer à côté.
Non, ça marche.
Ma petite sœur, elle a vachement eu peur aussi.
Ça marche, et ça marche pas uniquement sur le ressort, pas uniquement sur le ressort de l'intrigue des 2 jumelles. Ça marche aussi dans Ariel Elmaleh, la manière dont il peut tomber amoureux et la manière dont il veut. Pour l'instant, il est assistant de régisseur, mais il fait ce métier-là en attendant de pouvoir réaliser son film un jour. Ça fonctionne parce que c'est vrai que ces métiers sont faits de ça, avec des enfants de la balle, avec ceux qui apprennent sur le terrain. D'abord des tables régie et qui un jour peuvent se retrouver réalisateur. C'est la réalité.
Oui, qui commence très bas et qui tout d'un coup.
On n'est pas réalisateur du jour au lendemain.
Oui.
Ça marche aussi avec le rapport de l'agent, François-Xavier de Maison. Ça marche avec le rapport de la mère aussi, je vais pas remettre ça. Non, mais vraiment à tous les niveaux.
Qui ment, qui va quand même lui mentir toute sa vie. C'est quand même terrible de mentir à...
L'agent mente ?
Non, ma mère.
Ah, la mère, ouais.
Et ça vient sauver le personnage de Julie.
Elle protège.
Parce qu'on comprend.
De garder ce secret.
On comprend finalement qu'elle est un peu triste, un peu aigrie aussi, parce qu'il lui manque quelque chose d'essentiel
dans sa
vie. Voilà, donc ça la sauve aussi, c'est pas monochrome.
Non, mais vraiment.
Non, c'est pas une comédie, hein. C'est une comédie aussi de.
Avec de la profondeur.
Il
y a une scène très émouvante, c'est quand elle se retrouve dans le même lit, elle dort ensemble. Et là, c'est une scène muette. Et il y a le regard.
Tu parles des 2 jumelles.
Les jumelles, oui. Et Julie est endormie et sa sœur la regarde et il y a de la tendresse dans le regard, de l'émotion et comme une quête. Et ça c'est un très très beau moment. Très
avec
réussi.
avec leur doudou.
Mais je fais ça tous les soirs, Albert, dans ma avec dans mon lit. Je me regarde avec moi. Je me regarde avec ma sœur jumelle.
Non, c'est bien écrit, c'est drôle, un peu, c'est schizophrène. Ouais. Il est là. Alors c'est Daniel Morin.
Et beaucoup, beaucoup de tristesse en ce lundi 27 mai, les amis. Oui, le Festival de Cannes a tiré sa révérence et les élections européennes ont livré leur verdict. La Palme d'Or a été donnée à un film sud-coréen, Parasite, un film dont le synopsis est le suivant. Toute la famille de Kitek est au chômage et...
Stop !
Il n'en fallait pas plus de détails pour que France Inter hurle son intérêt pour le film et demande à être partenaire. Voilà, c'est fou ça, ce penchant pour le chômage, la misère et toutes ces choses terribles ici sur Inter. Bon bref, le festival c'est terminé, alors je vous parle, les vieux regagnent leur transat, tirés dans le sable par leur caniche, et Pierre Lescure est au Panama en train de planquer les 5 millions d'euros que lui ont filé les Coréens pour avoir la palme d'or. Et puis hier, c'était les élections européennes. Surprise, désastre, calamité, agonie, voilà quelques mots qui résument le scrutin de ce 26 mai. Des élections dont les résultats auraient très bien pu inspirer un film en compétition à Cannes, en partenariat avec France Inter.
Ah oui.
Et pour clore ce festival, la remise des prix. Prix d'interprétation féminine, Nathalie Loiseau, dans En Marche.
Nathalie Loiseau a su émouvoir le jury avec son regard rempli de malheur et sa voix sans espoir. À elle seule, elle porte une campagne électorale que personne n'a suivie, qui a inquiété tous les cadres de son parti et qui, par quasi-miracle, recueille quand même près de 23% des voix. On retrouve chez Nathalie Loiseau la force des comédiennes de Ken Loach, des Frères d'Ardenne ou de Guédi Guian quand elles sont en proie et simultanément au chômage, à la maladie, à la violence conjugale.
Grand prix du jury à présent et à l'unanimité, les Républicains avec Laurent Wauquiez.
Jamais la droite classique n'était descendue sous la barre des 10%, mais c'était sans compter sur Laurent Wauquiez. Le travail de cet homme est remarquable, une telle maîtrise dans l'antipathie, un tel talent de discorde, c'est du jamais vu. En même temps, faire passer sous les 10% les Républicains, c'était peut-être la seule façon dont Laurent Wauquiez pouvait un jour marquer l'histoire de son parti. Il l'a fait, bravo à lui.
Et le prix d'interprétation masculine est attribué à Francis Lalanne dans Gilets jaunes.
On connaissait l'immense talent de Francis Lalanne pour endormir une salle entière d'un coup de micro. Mais là, le troubadour en cuissarde a fait des merveilles. Avec 0,4%, il fait presque 4 fois moins bien que le Parti des animaux. Et quand tu fais 4 fois moins qu'un parti politique qui s'appelle le Parti des animaux, c'est une incroyable performance. Et tu mérites au moins un prix, si ce n'est un Oscar.
Et enfin, la Palme d'Or est attribuée au Rassemblement National.
Une fois encore, le parti sombre de la dame aux cheveux clairs s'est hissé au sommet d'un vote sans passion, où la peur d'un lendemain sans emploi et saupoudré d'immigrés assoiffés de sang a fait pencher la balance. Jordan Bardella, le nouveau Kaiser, un jeune pouce au visage dur, au regard plein de haine, a su transmettre toutes les valeurs d'une époque pétrie d'angoisse. Jordan Bardella a su faire passer l'émotion d'une Europe sociale en crise, d'une Europe du travail mécréante, d'une Europe au bord du gouffre, et ça, ça fait du bien. Cette palme d'or récompense un travail époustouflant de négatif, sans proposition et au service de la trouille collective. C'est noir, c'est triste, c'est déprimant, c'est sale, c'est génial.
Sinon, faut voir le côté positif de la chose. Les écolos arrivent troisième avec 13,4% des voix. Et 13,4, c'est 9 fois plus que le Parti des animaux. À demain.
Merci.
Le 3 juillet prochain, Mathilde Seigné, vous serez à l'affiche de Ibiza, le film d'Arnaud Lemort, aux côtés de Christian Clavier, de Joe Estar.
Mmh. Vous y faites... Olivier Marchal aussi.
Vous y faites quel personnage?
Là, j'en ai qu'un.
ça va vous manquer.
Décevant. Carole, je suis mariée à... Non, je suis pas mariée avec Christian, c'est mon nouveau mec. Et avec j'ai deux enfants et...
Vous êtes tous les deux divorcés, vous mettez ensemble.
Il y a une famille comme ça recomposée, mes enfants détestent Christian. Enfin,
ouais. Le personnage,
et pour leur faire plaisir, se mettre bien avec eux, il va les emmener à Ibiza. Alors, c'est tout à fait différent du film d'Anne, c'est une vraie comédie. Alors, pour le coup, très drôle. Là, c'est vraiment drôle. Et vacances. Et puis, il y a une star, c'est Ibiza. parce qu'elle est rarement filmée comme ça, Lille. Ça, j'avoue que...
Voilà. Ça sera le 3 juillet, 3 juillet au cinéma. Pour l'instant, ce mercredi 29, ni une ni deux, cette douce et tendre comédie avec Mathilde Seigné, François-Xavier de Maison, entre autres, signée Anne Diaferi. Et je souligne la présence également de Marianne Chazelle ou encore de Marie-Julie Beau. Merci Mathilde.
Merci Nagui. D'être venue à ce
micro. Et encore bravo. Des excuses avant de nous quitter peut-être.
Bien sûr, déjà désolé pour Mathilde Seigné, notre invitée qui déteste les stand-uppers et qui s'est retrouvée ce matin à côté d'un des pires de l'espèce, à savoir Ernesto Guillermo Guis. Et encore, vous avez de la chance de ne pas comprendre ce qu'il avait dit. Nous, on commence à décrypter. Franchement, c'est affligeant. C'est gênant. Enfin, pour être honnête, c'est même une honte. Désolé pour Alain Delon qui a appris ce matin que Mathilde Seigné doutait de sa capacité à vivre encore 5 ans. Alors c'est vrai que dit comme ça, ça picote un peu, mais en même temps, je parierais pas non plus. Hein. J'ai vu les images du tapis rouge.
Oh, arrête.
Il a morflé le guépard.
C'est pas vrai, il est très très beau.
Désolé pour Augustin Trapenard dont les penchants extrêmes pour l'amusement et les booms ont été une nouvelle fois balancés à la tête, à l'antenne. Et encore, hein, on n'a pas balancé le dealer. Je ne dirai rien par respect pour la famille Kadour Boudet.
Non, enfin.
Demain, Claude Lelouch sera notre invité. Encore merci, encore
merci,
bravo.
Merci Nagui.
À bientôt Mathilde. Bravo. Bonne journée avec les carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, bonjour. Salut les amis.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, extrêmement.
Vous vous remettez de la veille?
De la veille? Ah oui, oui, évidemment. Bah, il vaut mieux.
Bah, ouais, on a intérêt.
Allez, on lâche rien.
Allez, salut les amis.
Bonne émission. C'était super en tout cas.